Il est 20h tout pile, nous sommes le 19 décembre 2019 et c'est le journal radiophonique amplifié numéro 58. Alors vous n'avez peut-être pas entendu le numéro 57 si vous n'étiez pas sur les ondes en direct il y a 15 jours, mais c'était dû à un petit problème technique, celui-là vous l'aurez bien en podcast sur le site de Transistor comme d'habitude. Le journal radiophonique amplifié ce soir, c'est des brèves, un petit tour vers l'Angleterre, un petit point sur les mobilisations actuelles contre la réforme des retraites. Un grand retour sur toute l'actualité politique 2019 avec une édition spéciale de l'édito politique et un super quiz. Des nouvelles de la musique, de la culture, un dernier sur le chemin de l'école, un peu de sport, un peu de science. Et ce sera une belle soirée en compagnie de l'équipe du JR. Et on commence tout de suite avec le journal fait par Marie et moi. Alors, on commence par l'international ?
Allez, tant qu'on y est.
Et il y a un début de procédure d'impeachment.
Oui, c'est ça. Alors en fait, un petit peu plus qu'un début, puisque la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, s'est réunie hier soir pour voter les deux articles de mise en accusation, donc d'impeachment, visant Donald Trump, le troisième président de l'histoire du pays à être mis en accusation, ici pour abus de pouvoir et pour entrave à la bonne marche du Congrès. Après 6 heures d'un débat houleux, durant lesquels la parole a été équitablement répartie entre républicains et démocrates, la Chambre, menée par sa présidente démocrate Nancy Pelosi, a voté pour la tenue d'un procès du président au Sénat. Après la diffusion d'une conversation téléphonique entre Trump et le président ukrainien, les démocrates avaient reproché au président d'avoir fait pression sur son homologue afin d'obtenir l'ouverture d'une enquête sur le fils de son adversaire démocrate, Joe Biden. Ils avaient lancé une procédure de destitution dont la première étape avait été la tenue d'une enquête lors de laquelle Trump a refusé de coopérer, d'où la deuxième accusation, entrave à la bonne marche du Congrès. Dans une lettre à la speaker de la Chambre, Trump a dénoncé, je cite, « une croisade odieuse ainsi qu'une tentative de coup d'État illégale et partisane ». La prochaine étape, le Sénat devra décider s'il juge ou non le président coupable. Un vote dont l'issue semble déjà connue, puisque le Sénat républicain devrait se prononcer contre la destitution du président. Et le président du Sénat, Mitch McConnell, a d'ailleurs déjà annoncé son soutien au président, une affaire qui reste à suivre.
Et on part du côté de l'Inde.
Et oui, ils sont des milliers en Inde à contester la réforme des nationalités. Le Citizenship Amendment Bill sert un but très clair, accorder la nationalité sur des critères religieux afin de légaliser les hindous venus de l'extérieur et d'écarter les musulmans venus de l'extérieur. Le texte, en effet, qui amende une loi de 1955, régularise des réfugiés de 6 religions ayant fui pour des raisons religieuses 3 pays voisins, Afghanistan, Pakistan ou Bangladesh, mais refuse en revanche la nationalité aux réfugiés musulmans qui resteront, eux, des citoyens sans papier et donc sans aucun droit. Une réforme nationaliste et discriminante qui n'est qu'une étape supplémentaire dans la volonté du Premier ministre Narendra Modi d'imposer l'idéologie des Hindutva ou l'hindouité, une nation pour les hindous. Le Congrès, dirigé par le clan Gandhi, a dénoncé une loi allant à l'encontre de l'idée de l'Inde et de Bombay à Calcutta, les Indiens ont protesté contre, je cite, « une politique de ghettoisation qui s'oppose en tout point à l'esprit de la Constitution indienne ». Plusieurs protestations ont tourné à l'émeute, des étudiants ont été violemment pris à partie par la police, mais la population n'est pas prête à se résigner et refuse d'accepter une loi ouvertement raciste.
Un tout petit point sur le Brexit, puisqu'aujourd'hui, Elisabeth II a présenté le programme du gouvernement de Boris Johnson, dont l'axe central repose sur son slogan de campagne « Get Brexit Done ». Celui-ci a en effet vu son parti conservateur élu le 12 décembre dernier et il dispose désormais d'un mandat de 5 ans et d'une majorité affirmée pour réaliser sa politique. Le Brexit aura donc bien lieu le 31 janvier prochain, plus de 6 mois après que le Parlement britannique ait refusé de ratifier l'accord entre Theresa May et l'Union européenne. Mais Nicolas vous en parlera un peu plus précisément dans son billet d'ailleurs. Et enfin, Marie, une actualité de toute dernière minute pour finir.
Et oui, puisque fin octobre au Liban, un soulèvement populaire inédit avait conduit à la démission du Premier ministre Saad Hariri, accusé d'incompétence et de corruption. Eh bien, il y a quelques heures seulement, le pays s'est trouvé un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Hassan Diab, un universitaire et ancien ministre de l'Éducation, soutenu par le Hezbollah, ce groupe islamiste chiite, et il a été chargé par le président Michel Aoun de former un gouvernement. Hassan Diab avait qualifié le mouvement de contestation d'historique, mais sa nomination pourrait avoir des conséquences dommageables pour le pays. Pourquoi ? Eh bien, un gouvernement dominé par le Hezbollah, mouvement que les Américains considèrent comme terroriste et ont sévèrement sanctionné, pourrait rendre difficile l'accès au Liban à l'aide financière internationale. Plus encore, la situation réitérerait le conflit entre sunnites et chiites au Liban, une société confessionnelle dont le système politique est conçu pour garder un équilibre entre les différentes communautés religieuses, avec un premier ministre soutenu a priori par les figures de sa communauté, ce qui n'est pas le cas ici. Une situation compliquée donc, dans un pays au bord de l'effondrement économique, qui réclame le départ de sa classe dirigeante au pouvoir depuis la fin de la guerre civile en 90, la contestation devrait se poursuivre.
Et on retourne en France pour un point sur l'actualité qui est hyper riche également ici sur notre territoire avec toutes les mobilisations contre la réforme des retraites. Alors, on fait le point. D'abord, mardi dernier, 17 décembre, le ministère de l'Intérieur a annoncé 615 000 personnes présentes dans les manifestations. C'est un peu moins que pour le 5 décembre, mais à Paris, c'est la manifestation qui a connu sa plus forte affluence depuis le début du mouvement. De son côté, la CGT a dénombré environ 1,8 million de manifestants, avec l'écart habituel qu'on connaît entre les deux annonces. Les différents syndicats réclament toujours le retrait du projet et le mouvement est loin de s'essouffler. Le trafic SNCF et RATP reste fortement perturbé, avec un TGV sur 4 et un Transilien sur 5 en moyenne. 8 lignes de métro sont toujours fermées à Paris et selon le ministère de l'Éducation, c'est 24,16% du corps enseignant qui est en grève. La protestation reste donc vive dans tous les corps différents, que ce soit le corps hospitalier ou les agents EDF, et il y a des actions prévues tout au long du mois de décembre. Les rassemblements ce mardi ont réuni plusieurs milliers de personnes partout en France, plus nombreuses que le mardi 10 décembre. Il y avait environ 17 000 personnes à Toulouse, entre 14 000 et 30 000 à Nantes, et pour l'info toute locale, à Lyon, ils étaient 40 000. On compte des sites d'universités et grandes écoles bloquées comme Sciences Po et notre école normale supérieure pour la deuxième fois. C'est assez historique. Il y a également des partiels qui ont été reportés à Lyon 2. À noter également, et on s'en souviendra bien puisque cela a été couvert par Le Monde, mais également parce qu'il y avait des étudiants et des enseignants de l'ENS de Lyon et d'autres écoles de Lyon. Le blocage du conseil d'administration de l'université devant le rectorat a été fortement réprimé par la police qui a gazé et matraqué sans sommation. Et pour revenir à ce point sur les mobilisations à une échelle un peu plus nationale, est-ce qu'on peut faire le point, Marie, sur un peu la position du gouvernement, des syndicats, qu'en est-il de la situation aujourd'hui ?
Oui, alors hier, mercredi, Édouard Philippe recevait les responsables des principales organisations patronales et syndicales pour la tenue de réunions bilatérales sur cette réforme des retraites. Tous ont réitéré leur profond désaccord avec le gouvernement sur cette réforme. Laurent Berger, à la tête de la CFDT, a souligné que l'âge d'équilibre n'était, je cite, « pas une option pour la CFDT » et a appelé à manifester mardi contre ce point de la réforme. Même s'il a reconnu avoir senti une volonté de discussion sur des thèmes tels que la pénibilité au travail ou le montant de la pension minimale de retraite, et même s'il est l'un des seuls à soutenir le système universel, Laurent Berger a martelé que la détermination de la CFDT était intacte. Le représentant de la CGT, Philippe Martinez, demande toujours, lui, le retrait pur et simple du projet de loi et a revendiqué plusieurs coupures d'électricité hier et aujourd'hui. La CFTCL a salué des ouvertures du gouvernement qui restent cependant à confirmer. La SNCF a quant à elle refusé la trêve de Noël réclamée par le gouvernement et par Laurent Berger. Et côté gouvernement, justement, si Édouard Philippe affiche sa détermination, je cite, « totale », l'Élysée a fait savoir que le président s'était fixé pour objectif d'obtenir une pause de la mobilisation pendant les fêtes et qu'il était donc prêt à envisager une amélioration de la réforme autour de l'âge pivot. Bref, si le gouvernement oscille entre conciliation et fermeté, l'opposition ne faiblit pas et l'affaire est à suivre.
Oui, une affaire à suivre puisque l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée d'action d'ailleurs le 9 janvier. Et puisqu'on parle retraite, on va parler de Jean-Paul Delevoye qui a démissionné en début de semaine de son poste de haut commissaire alors que l'opposition sociale à sa proposition de réforme battait son plein. Le parquet de Paris a annoncé aujourd'hui avoir ouvert une enquête préliminaire le visant. Et la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique avait d'ailleurs saisi la justice hier à la suite des révélations en rafale de la presse sur l'ensemble de ses activités parallèles que M. Delevoye n'avait pas mentionnées dans sa déclaration d'intérêt. L'enquête porte donc à la fois sur cette déclaration incomplète ainsi que sur les conditions du cumul de rémunération d'un emploi public ou d'un membre du gouvernement et d'une rémunération privée. En attendant, c'est le député La République En Marche, Laurent Pietraszewski, qui le remplace, anciennement directeur des ressources humaines chez Auchan. Pour 2 mois de mission, il a reçu, à l'été 2017, plus de 71 000 euros de salaire et avait mis à pied une employée du rayon boulangerie pour une erreur sur une viennoiserie alors qu'il était DRH du magasin Auchan de Béthune. C'est donc un profil qui est loin de calmer et d'apaiser le dialogue social. C'est la grève toujours encore et c'est la grève aussi à Radio France. La grève se poursuit, c'est toujours de la musique sur les ondes et du silence dans le bureau de Sybille Veil. Hashtag Nous Radio France, lancé par celles et ceux qui luttent pour le service public qui est encore la radio et pour un service public de qualité et issu du collectif, comme ils le revendiquent sur leur compte Twitter. Ils ont également lancé un appel pour que tout le monde puisse publier les raisons pour lesquelles ils aiment la radio publique. Je vous en ai pris un que j'ai beaucoup aimé, celui d'Olivier Minot qui publie la dépêche sur Arte Radio et qui déclare « Le son du vent, les bruits du monde, la voix des gens, la radio c'est la vie, ma vie c'est la radio ». Donc si vous voulez vous aussi aller exprimer votre amour pour la radio publique et pour la radio en général, je suis sûre que vous avez des choses à dire sur Twitter. Aujourd'hui, d'après le CNJ Radio France, c'est 60% des journalistes de Radio France qui ont cessé le travail. Pour rappel, la grève a commencé le 25 novembre pour contester le plan de suppression de 299 emplois, remplacé par seulement 76 créations de postes. Un plan de réorganisation de la Maison Ronde, orchestré par Sybille Veil, qui génère l'incompréhension lorsqu'on sait que les antennes de Radio France sont écoutées chaque jour par 14,3 millions de personnes. Vous pouvez d'ailleurs toujours aller signer cette tribune parue dans Le Monde et transformée en pétition sur change.org, faire plus avec moins, ça ne marche jamais nulle part, qui est adressée au ministère de la Culture. Le journal, c'est tout pour aujourd'hui. On part directement en Angleterre avec toi, Nicolas.
Il y a plus ou moins exactement une semaine, un jeudi, jour pourtant associé ici à Lyon à, par exemple, des concours de qui engloutira le plus de bières à 1 euro en festive, car oui, la festive est revenue à Descartes, ou bien aller se regarder un bon ou un moins bon petit film au Comédia. Non, mon jeudi s'est arrêté à 23h pétante, au moment où les premières estimations des résultats des élections législatives en Grande-Bretagne sont tombées. Et j'ai eu envie d'arrêter de me battre quand j'ai vu la majorité absolue des conservateurs se renforcer de 70 sièges, Tsunami emportant avec lui un rêve un peu ambitieux peut-être, celui de voir l'aile gauche du Parti travailliste l'emporter. J'ai un peu envie de passer les détails de cette campagne, que j'ai pourtant suivie de très près. Vous risqueriez d'attraper ma déprime. Non, je ne vous énumérerai pas, mais les innombrables unes fallacieuses de quotidiens comme le Daily Mail ou l'Evening Standard, attaquant directement, des fois avec un sexisme ou un racisme à peine dissimulé, les figures du Labour. Je ne parlerai pas non plus du rôle critique des réseaux sociaux dans la dissémination de ces fake news. Je ne vais même pas essayer de vous parler de ma colère à chaque fois que je vois les images de Boris Johnson mettant dans sa poche le téléphone portable d'un journaliste, car ce dernier lui montrait des images d'un enfant malade, allongé dans les couloirs d'un hôpital faute de moyens publics. Je ne vous en parlerai pas car je suis fatigué de cette vie-là, avec un grand V. Ne vous inquiétez pas, je ne me jetterai pas de la fenêtre du studio. D'ailleurs, il n'y a pas de fenêtre dans le studio. Mais quand je dis « vie avec un grand V », c'est cette vie de militant où chaque résultat d'élection nous donne de moins en moins envie d'y participer. Où chaque tentative de sortir du monde des abstentionnistes n'est qu'un souvenir si amer. J'aurais presque envie de vous répéter le discours d'Ewan McGregor dans Trainspotting, film de 1996, décrivant la vie d'un addict à l'héroïne dans un Édimbourg pas franchement accueillant. Dans ce monologue, notre personnage nous laisse entendre que pour lui, choisir de subir une vie dictée par la télé, les crédits immobiliers, la famille parfaite, l'info en continu, eh bien c'est choisir de ne pas vivre. Clairement, c'est dur en décembre 2019 de se distancier de ce désespoir généralisé, partagé par les Boliviennes et les Boliviens qui se bouffent des militaires et une illuminée à la tête de leur pays assiégé. Les États-Uniennes et les États-Uniens qui suivent tant bien que mal, qui survivent pardon, tant bien que mal au démantèlement de leur système de santé déjà peu vaillant, à la violence policière et aux assassinats racistes au quotidien, et puis la vie au jour le jour des plus faibles dans notre propre pays, qui n'en ont pas grand-chose à faire que requin numéro 2 remplace requin numéro 1 au poste de monsieur retraite, du moment que cette réforme meurtrière passe. Pourtant, on est là. Oui, on est là. Même si Macron...
On est là mais... on est là. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là.
Eh ben oui, même si Macron, même si Pinton, même si Boris, même si Trump le veulent pas, force est de constater qu'on est là. Et ce que je retiendrai de ce mois de campagne au Royaume-Uni qui m'a redonné, bien que temporairement, envie de voter. De ce mois où un café politique d'une douzaine de péquenots s'est transformé en AG réunissant 150 battantes et battants. Ou des impressionnantes manifestations chorégraphiées de femmes latino-américaines qui, avec leur voix, ont fait plus que trembler les murs du patriarcat violeur et prédateur. Ben, ce que je retiendrai, c'est que on était vivants, plus que jamais, en ne pensant pas une seule minute à accepter une vie dénuée de raison qu'on nous offre pourtant. Tout ça pour dire que, oui, c'est probable que Boris Johnson reste au pouvoir 5 ans de plus que cette réforme des retraites passe. Et... qu'on se sente comme des cons à penser qu'on a fait ça pour rien. Mais notre mission à nous qui en plus avons le temps de réfléchir à notre place dans la société quand le corps d'autres est mobilisé sans répit par les assemblages du capital qui sont malicieux parce qu'ils s'actualisent sans arrêt constamment quand ils sont confrontés à des obstacles, eh bien, il faut prendre ce semblant de temps qu'on a, prendre ce blues hivernal et ce désespoir social et cette éco-anxiété et en faire de la colère. Attention. La colère, ce n'est pas leur haine, c'est plutôt un cadeau. Le cadeau de Noël, Hanouka, Kwanzaa, solstice d'hiver ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas quelle célébration païenne que l'on saura offrir au plus grand nombre. Merci.
Merci Nicolas, c'était hyper touchant et ça clôt bien 2019.
Le journal radiophonique amplifié
sur Transistor.
Et justement, on va faire le tour de cette actualité en faisant le tour des médias avec Marie pour une revue de presse.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et on la commence, Marie.
Eh bien, puisque c'est le dernier JRA de l'année 2019, Mathilde, et puisque Noël approche, eh bien, je vous ai préparé une revue de presse, pas très originale, j'avoue, version fête de fin d'année, du coup. Ouais. Eh bien, avec, comme lors d'un repas de Noël en famille, des oncles grincheux et réac, un retour sur les bons moments de l'année passée, des débats houleux et des anecdotes croustillantes, quelques idées et une pincée d'analyse sur une année chaotique et mouvementée.
Super, j'espère qu'il y aura des marrons chauds.
Tu crois pas si bien dire.
Alors, à la table de Noël, comme à la une des journaux, on va forcément parler retraite, non ?
Alors, bon, pour commencer, impossible d'y couper, et ce sera sûrement l'occasion à la table du réveillon de susciter des débats entre vos aïeux boomers et votre génération. Dans sa chronique pour l'Obs, Natacha Tatou dénonce la fin de la solidarité intergénérationnelle qu'engendrera une réforme des retraites profitant excessivement aux retraités au détriment des jeunes. Nous aurions, dit-elle, d'un côté les fameux boomers, entrés sur le marché du travail avant le chômage de masse, qui devaient cotiser à une époque où les retraités étaient encore très peu nombreux et qui pourront presque tabler sur une pension à taux plein. Et de l'autre, les jeunes, touchés par la précarité et la crise du logement, sans épargne ni patrimoine, qui devront justement supporter des cotisations importantes. Une vision que partage le Figaro, et oui, Noël fait de belles choses, l'Obs et le Figaro peuvent se mettre d'accord, qui rappelle que la France est l'un des seuls pays de l'OCDE où le taux de revenu moyen des retraités est bien supérieur à celui des actifs. Le Figaro qui explique d'ailleurs l'existence de ce système inégalitaire par le fait que ces retraités constituent sans conteste le plus influent lobby politique de France.
Des retraités pas si avantagés que ça sur d'autres plans, d'après une tribune du Monde ?
Oui, en fait, dans le monde, deux médecins questionnent la pertinence de travailler plus longtemps du point de vue de la santé. Car, nous disent ces professionnels, travailler plus longtemps entraîne une hausse des arrêts maladie liés en grande partie à l'âge et au travail parfois incompatible avec l'état de santé. Une retraite tardive pour eux, c'est donc un corps qui s'abîme, de l'argent perdu et une planète qui se détériore. Car oui, pourquoi produire plus et épuiser encore davantage les ressources de la planète ? La solution préconisée par ces médecins, c'est donc faire travailler les jeunes qui autrement resteraient dans des emplois précaires et mal payés et donc conserver la solidarité qui est au fondement de notre modèle social. Des avis donc contradictoires qui auront de quoi entretenir la véhémence des débats houleux entre le fromage et la bûche.
Et autour de ces repas de fête bien français, est-ce qu'on s'intéresse aussi à la situation ailleurs dans le monde ?
Oui, et d'ailleurs en parlant d'opposition entre deux générations, Le Monde Diplo revient sur le cas de l'Algérie, pays dans lequel s'opposent plus que jamais deux époques et deux mondes. Le premier, c'est celui du haut commandement de l'armée, habité par une vision archaïque et sécuritaire du pouvoir, et le second, c'est celui d'une jeunesse, ancrée dans le siècle et ouverte sur le monde. Le problème, c'est justement que ce régime autoritaire cherche à durer en dissimulant la nature militaire du régime, en édifiant un modèle clientéliste et enfin en divisant le peuple. Le Irak, lui, le mouvement de contestation, fait office de sentinelle démocratique et pourrait faire bouger les choses en réclamant des initiatives citoyennes et la fin d'un régime sclérosé. Le Monde, lui, nous livre un reportage passionnant sur Luanda, la capitale de l'Angola. La ville, autrefois, se voulait la Dubaï de l'Afrique, moderne et imposante. Le pays, deuxième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, produisait près de 2 millions de barils par jour, mais ce sont les élites politico-militaires locales du régime du président José Eduardo dos Santos qui se sont accaparées toutes les ressources. En 4 ans, la dette nationale a doublé pour atteindre 90% du PIB, et les chantiers, palmiers et luxueuses tours de verre, qui se sont multipliés dans une ville qui fut, et oui, la capitale la plus chère du monde, sont aujourd'hui abandonnés. Le président Lourenço veut aujourd'hui assainir le pays et attirer les investisseurs, mais le chômage reste élevé, la récession est à la fois économique et sociale, et la corruption est de mise.
On pourra donc avant tout étaler notre culture le soir de Noël.
Oui, et vous pourrez même livrer à vos hôtes des actualités qui montrent, et c'est le cas de le dire, que le monde ne tourne pas rond. L'OPS, en effet, était à la 3e convention internationale des platistes. Les platistes, ce sont ceux qui croient que la Terre est plate. Au programme de cette conférence, des conférences sur les mensonges des globistes. Les globistes, ce sont ces illuminés qui croient que la Terre est ronde, mais quelle drôle d'idée, franchement. Ou des conférences sur la bataille contre Satan et les puissances du mal. L'ennemi des platistes ? Eh bien, c'est la mainstream science, colportée par les mainstream media, et également Thomas Pesquet, qui a posté une photo depuis l'espace pour dénoncer cette théorie absurde et qu'ils accusent d'être restés dans un studio de cinéma et de n'avoir jamais été dans l'espace. Des platistes qui rabâchent des chiffres dont ils sont fiers. Aux États-Unis, l'expression « flat earth » est plus recherchée sur Google que le nom Donald Trump, et 16% de la population pense que la Terre n'est pas ronde, comme cette petite fille qui, quand on lui dit que des gens pensent que la Terre est sphérique, répond avec condescendance « It's crap. » Et à tous ceux qui auraient envie de se moquer de la bêtise des Américains, on répondra que 9% des Français pensent qu'il est possible que la Terre ne soit pas sphérique.
Waouh, c'est choquant, mais j'espère que la science, elle n'est pas morte et qu'elle peut nous offrir un peu d'actu et de belles perspectives pour 2020.
Oui, et d'ailleurs, Science et Vie se propose de recenser des promesses scientifiques enthousiasmantes. Samsung, par exemple, a encouragé des recherches sur un projet d'autoroute sous-marine. Pouvant relier Londres à la Scandinavie en 1 heure, il fonctionnerait sur un système de tubes scellés au fond des océans dans lesquels se trouveraient des rails supraconducteurs à lévitation magnétique. C'est ambitieux et peut-être irréaliste, mais d'autres projets devraient, eux, faire leurs preuves l'an prochain, comme celui du Qatar, qui consiste à peindre les routes en bleu pour réduire leur capacité à absorber le rayonnement solaire et donc permettre de réduire la température d'environ 7 degrés quand la température dépasse les 40 degrés. Et parce que la science est aussi des projets moins ambitieux mais tout aussi ingénieux, un cabinet de design italien a conçu un bar à jus capable d'imprimer des gobelets jetables en 3D à partir de la peau des oranges qu'il presse.
Tiens, ça pourrait être une idée de cadeau, ça, non ?
Alors, oui, pourquoi pas, mais pour des valeurs sûres, je vous conseille quand même de vous fier aux recommandations de la presse du jour. La Croix, d'abord, conseille La Source de l'amour propre. C'est un recueil des interventions publiques les plus marquantes de Toni Morrison. 43 textes percutants, souvent brefs et fulgurants, parfois surprenants et toujours érudits, tissant habilement des liens entre passé et présent, convoquant Melville ou Baldwin pour toucher du doigt l'indicible et parler au nom de ceux que l'on réduit trop souvent au silence. Pour votre cousin geek ensuite, Libération vous conseille le 0 et le 1.txt de Jocelyne Borda, une autobiographie d'une intelligence artificielle. Et oui, c'est original. Et pour votre oncle bourlingueur, ce sera La Jungle des Océans de Yann Urbina, un journaliste du New York Times qui, après avoir sillonné les, les 5 océans et une vingtaine de mers, nous livre un récit effrayant de la réalité d'un monde marin marqué par l'esclavage, les meurtres, le piratage, le pillage des ressources, la destruction d'espèces et la production exponentielle. On vous conseille enfin dans l'Obs le dernier livre de Lauren Grove, Floride. Un recueil de 11 nouvelles qui vous plongeront immédiatement dans l'ambiance pesante et envoûtante de la Floride d'aujourd'hui, avec ses tempêtes apocalyptiques, ses serpents qui grouillent près des habitations, sa chaleur torride et le bruyant étang des climatisations. Et avec une justesse remarquable, Lauren Groff nous dévoile autant l'atmosphère de son pays que les reliefs de l'âme humaine, sans emphase mais avec une puissance rare, dans des textes sombres toujours, aux accents apocalyptiques parfois, où le danger rôde comme des serpents à la tombée du jour. Et on est plongé avec force au cœur d'une Floride moite et angoissante, comme sous le crâne de personnages finement analysés, chahutés par des déluges quasi bibliques et par le chaos d'un monde qui n'offre aucune prise à leurs angoisses.
Mais l'angoisse, justement, c'est pas ce qui nous étreint quand on pense à l'année à venir.
Alors, intéressons-nous-y, je vais y arriver, pardon, justement, à cette année à façonner, à modeler de nos idées et de nos convictions, comme le fait l'Obs, qui titre « Ils vont faire 2020 ». Car oui, ça y est, les années 20 vont commencer. Peut-être pas de nouvelles années folles, non, mais du mouvement, ça c'est sûr. Il y a 100 ans, les suffragettes se battaient pour obtenir l'égalité citoyenne, et aujourd'hui, on dénonce toujours plus les violences sexuelles et féministes. On, c'est par exemple Blanche Gardin, l'humoriste au féminisme transgressif, qui fait la couverture de l'hebdo et que l'on aime pour sa verve caustique et son ironie crue et ravageuse. Les années 20 sont aussi celles des tournants politiques, élections américaines, Brexit et retraite, et de nouvelles têtes comme l'économiste Esther Duflo.
Et sur le devant de la scène, en 2020, il y aura peut-être aussi des figures un peu moins sympathiques.
Oui, et Gaspard Koenig livre un portrait acerbe de l'un d'entre eux, Mark Zuckerberg. Véritable seigneur qui règne sur 2,4 milliards de sujets, ayant abandonné toute propriété sur leurs données personnelles en signant les conditions d'utilisation de Facebook, Mark serait un empereur retranché derrière les murs de 2 mètres entourant sa villa hawaïenne. Un empereur qui veut battre monnaie, le Libra, qui édicte la norme et livre la populace aux appétits voraces des publicitaires. Et comme Auguste de son temps avait instauré la Pax Romana, l'empereur Marc fournit à ses citoyens l'outil pour s'installer dans des routines cognitives irrésistibles et sacrifie le libre arbitre sur l'autel de la paresse et de la facilité. Alors les années 20, dans un contexte de ralentissement économique, de crise environnementale et de montée de populisme, seront-elles le prélude à une grande dépression ? Eh bien n'oublions pas quand même que 1920 fut une période de création et de libération, alors gardons un peu d'espoir en s'inspirant par exemple du niveau d'exigence et de la persévérance de Teddy Riner, judoka invaincu depuis 2010, ou de la perspicacité de Glenn Albrecht, qui invente le terme de solastalgie, sentiment de détresse qui nous envahit face à la destruction de la nature et de notre territoire. Bref, il reste beaucoup à faire pour 2020.
Eh ben, on va s'inspirer de Teddy Riner pour l'année 2020. Alors, c'est ce qu'on aura retenu de la revue de presse. Bon, on va passer à l'économie, du coup. Et Elliot, tu vas nous parler de gros suspense des retraites.
Eh oui Mathilde, car la spéculation c'est fini. Enfin, c'est ce que j'aurais aimé vous dire. Mais il reste malheureusement de nombreuses inconnues. Cependant, Édouard Philippe a présenté le projet concret de réforme des retraites mercredi dernier, et il a depuis fait couler beaucoup d'encre, notamment celle d'Antoine Bozio. C'est un économiste, maître de conférences à l'EHESS, et surtout, il a fait sa thèse sur les retraites. Il est le principal instigateur et défenseur du programme d'Emmanuel Macron quant à la réforme des retraites. Pourtant, vendredi, il a signé une tribune dans Le Monde intitulée « Difficile de se départir de l'impression d'un formidable gâchis ».
Et comment il faut comprendre ça ? Que Antoine Bozio, il reconnaît s'être trompé et se range derrière ceux qui veulent conserver le système actuel ?
Alors pas du tout. Revenons à l'esprit initial de la réforme d'Emmanuel Macron telle qu'elle fut promise dans son programme et donc telle qu'elle est pensée par Bozio. Il part d'un constat très simple, le système actuel est doublement injuste. Comme vous le savez certainement, depuis la fin des années 80, les retraites ne sont plus indexées sur la croissance des salaires mais sur l'inflation, qui croît moins vite. Cela signifie que le taux de remplacement, c'est-à-dire le montant que l'on reçoit à la retraite en pourcentage de nos derniers salaires, est en baisse. Autrement dit, pas besoin de réforme pour baisser les dépenses consacrées aux retraites puisque, dans le système actuel, ces dépenses vont baisser, en baissant en même temps le niveau de vie des retraités par rapport au reste de la population. Voilà pour le premier constat. Le deuxième, c'est que le système actuel frappe les plus défavorisés. Les individus aux carrières hachées, par exemple les étudiants, qui ne cotisent pas pour leur retraite s'ils travaillent moins de 150 heures par trimestre. Les femmes aussi, dont les retraites sont en moyenne bien inférieures à celles des hommes, et bien d'autres.
Ok, alors tu nous dis que le système actuel est loin d'être parfait et couvre même de nombreuses injustices. Mais d'après les manifestants, les grévistes et l'ensemble des opposants, c'est aussi le cas de la réforme à venir.
Alors, Oui et non. En fait, d'après Bozio, la réforme a quand même plusieurs points positifs qui suivent directement ses recommandations. La mesure phare, le passage à un régime universel, assure les mêmes droits pour tous tout en réduisant la défiance entre les citoyens et l'illisibilité du système actuel du 42 régime. Cela passerait par un régime à points, avec 1 euro cotisé dans le même nombre de points pour tous, et ainsi, les travailleurs précaires y gagneraient doublement. Déjà, ils cotiseront pour toute heure travaillée, mais en plus, la durée de cotisation ne sera plus prise en compte dans le calcul, des droits. Et enfin, l'indexation du point devrait se faire sur l'évolution des salaires et non plus sur les prix, ce qui serait une avancée majeure puisque la pension ne pourrait plus baisser ni en valeur absolue, la loi interdira la baisse de la valeur du point, ni relativement au reste de la population. Et c'est une liste non exhaustive. Selon Antoine Bozio, j'aurais par exemple évoquer la retraite minimum à 1000 euros pour ceux ayant effectué une carrière complète, qui est un véritable progrès pour ceux ayant des bas salaires comme les agriculteurs.
Alors, excuse-moi de te couper, mais comment se fait-il qu'Antoine Bozio parle d'un formidable gâchis, malgré tout le tableau que tu nous en peins ?
Parce que justement, il y a un mais. Et le mais, c'est que la réforme telle qu'elle est aujourd'hui pensée ne suit plus les recommandations de Bozio et peut selon lui consister en une réduction des droits à la retraite. Regardons ce qu'Edouard Philippe a annoncé. Et ce que dénonce Bozio dans sa tribune. La réforme est reportée aux générations nées après 1975, et donc à 2037. La réforme systémique, donc le changement de système, est repoussée de 12 ans. En revanche, le gouvernement prévoit la mise en place dans le système actuel, et en attendant, d'un âge pivot qui remplacerait l'âge légal de départ. Donc un âge pivot, c'est quand on part avant, on a un malus sur la retraite, si on part après, on a un bonus. Donc la réforme paramétrique qui consiste à changer les paramètres du système est pour maintenant. Le but étant évidemment d'inciter les gens à travailler plus longtemps. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que le gouvernement fait passer l'objectif budgétaire avant celui de la justice sociale qui était prôné par Antoine Bozio au départ.
Ah, bon ?
En effet, si l'augmentation de l'âge de départ à la retraite était déjà prévue dans la législation actuelle, environ le corps prévoyait 64 ans vers 2037, elle est maintenant avancée de 10 ans. Pire encore, ça défavoriserait encore plus les jeunes, puisque dans le rapport de Levoix, c'est nous qui avons le plus à perdre. Cet âge devrait en effet augmenter selon les générations, pour situer un âge pivot autour de 66 ans pour ceux nés en 1990. Ainsi, c'est l'aile droite du gouvernement, menée par le Premier ministre, qui semble avoir dévoyé en partie le projet initial, puisqu'il en a fait une arme budgétaire aux dépens de la redistributivité. Et c'est justement ça que dénonce Antoine Bossio dans sa tribune. Cette réforme devait en effet initialement se faire à budget constant et donc être très redistributive, puisque les gagnants auraient été les 50% de la population avec les plus bas salaires. En cas de réforme uniquement systémique, comme le propose Bozio, on aurait gardé le même budget alloué aux retraites. Simplement, c'est sa répartition qui aurait changé. Ceux qui ont des carrières ascendantes, avec des hauts salaires, auraient touché en proportion de ce qu'ils avaient cotisé, alors qu'aujourd'hui, ils touchent plus en prenant à ceux dont la carrière a stagné. Or, Édouard Philippe n'a fait aucune annonce à ce sujet, et Antoine Bozio conclut donc « L'objectif est ainsi assumé de réduire la dépense des retraites, il est peu probable que le nouveau système fonctionne à budget constant. » Donc c'est pour ça que j'ai voulu insister quand même sur les points positifs de la réforme au départ, telle qu'elle était pensée par Antoine Bozio, l'économiste, et sur les points négatifs aujourd'hui qu'on constate, parce que je rejoins Bozio lorsqu'il conclut que dans sa tribune que le plus gros gâchis de cette réforme est la méthode qui a été mise en place, et notre échec collectif à construire un consensus sur le diagnostic et les solutions. Parce que la polarisation de nos débats publics ne présage rien de bon pour notre démocratie.
Merci pour cet éclairage. Il est temps de passer à la politique avec Adèle et on va passer à tout le point sur l'actualité 2019 avec toi.
Il giornale radiofonico dell'amplificazione.
Sur Transistor.
Alors, tenez-vous prêts. Parce que ce soir, je vous propose un petit quiz politique pour voir si vous avez bien retenu l'actualité de cette année. Alors, pour commencer...
On est tous chauds.
Pour commencer, je vous propose la date du 15 janvier. Ce n'est pas la plus évidente, je vous donne un indice. Elle s'est passée à Bourtoroude, charmant petit village de l'Eure.
C'est quoi cet indice?
Où le président Macron a lancé... le grand débat national. Et voilà. Votre ignorance à ce sujet montre bien l'impact de cette conférence. Aussi. Pour répondre au mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement a donc lancé un grand débat national autour de quatre thèmes clés. Transition écologique, fiscalité, démocratie et citoyenneté et organisation de l'État et des services publics. Cette consultation s'est faite selon plusieurs modalités. Cahiers de doléances, débats locaux organisés en mairie, mise en place d'une plateforme, conférences régionales. Et le 25 avril, le président a proposé un bilan du grand débat et a annoncé, entre autres, une baisse de l'impôt sur le revenu, une réforme de l'administration avec possible suppression de l'ENA, et je vous le donne en mille, une réforme des retraites avec la mise en place d'un système par points et l'indexation des petites retraites sur l'inflation. Bon, ça vous a pas trop enthousiasmé. Du coup, je mets zéro à tout le monde et je passe à la question suivante. Alors, question suivante, elle est peut-être plus facile. Le 15 mars, c'était un vendredi. Et
personne se souvient de ce qui s'est passé le 15 mars ?
Non mais
ça s'est même passé à l'ENS de Lyon.
Ça s'est passé dans les rues ?
Pas à l'ENS le 15 mars. Pas admis.
Bah, vous êtes vraiment nuls.
Ça s'est aussi passé dans toutes les autres villes de France. Hein. Vous avez zéro excuse. C'est un vendredi, les gars. Vous étiez en cours ou quoi ?
Oui, bravo. Merci Marie. Est-ce que tu peux le dire plus fort ?
C'était la marche pour le climat.
Exactement. Yeah. Qui s'est effectivement passée dans plus de 200 villes de France, dont 12 000 personnes à Lyon et 168 000 à échelle de la métropole. Alors, quel impact de ces marches ? Elles avaient à l'origine vocation à être des grèves pour le climat reconduites tous les vendredis. Force est de constater que cette ambition n'a pas été vraiment suivie d'effet à moyen terme. Mais pourtant, et l'allocution de Greta Thunberg en septembre dernier devant l'Assemblée Générale des Nations Unies nous le montre, ce mouvement marque un véritable tournant, en tout cas il me semble, dans les mobilisations écologistes. Il dénonce avec véhémence l'inaction des politiques et l'urgence climatique et met en avant la nécessité de l'action collective pour lutter en faveur d'un changement du système, là où l'écologie se bornait trop souvent auparavant à promouvoir les actes individuels au quotidien, qui certes ne sont pas négligeables, mais totalement insuffisants pour agir à grande échelle. Alors, bon, un point pour Marie. Alors, pour la prochaine date, je vais vous donner un petit indice. Notre-Dame, la première. Nicolas, tu m'as l'air très inspiré.
Nicolas,
qu'est-ce qui s'est passé le 15 avril ?
Je sais pas. Non, il y a eu un incendie. Enfin, Notre-Dame était en...
Effectivement, était en flamme. Alors, c'est un événement qui n'a pas manqué de faire parler de nous, petits Français dans l'actualité mondiale, et d'occulter par ailleurs un certain nombre de sujets politiques dans les médias. Face à la catastrophe pour le patrimoine culturel et historique mondial, on a assisté à une escalade des donations. François Pinault a annoncé un don de 100 millions d'euros pour la reconstruction, suivi de près par Bernard Arnault qui met 200 millions sur la table, de même que la famille Bettencourt. On arrive à un total de près d'un demi-milliard d'euros. Une belle preuve de générosité, même si, comme le dit Philippe Poutou, s'ils ont trop d'argent, qu'ils le mettent à disposition de la collectivité, il y a bien des urgences sociales, ou alors qu'ils se laissent réquisitionner. Un point pour Nicolas, donc, pour le 15 avril. Alors, pour le 26 mai, je fais appel aux plus musiciens d'entre nous. Européens. Merci Nicolas, tu l'as dit, même pas besoin d'entendre la musique. Qu'est-ce que c'était ?
Les élections européennes.
Effectivement, bravo, quelle vivacité. Donc c'est des élections qui ont été marquées par une hausse de l'extrême droite et à gauche par la montée des préoccupations écologistes. C'est le FN qui est arrivé en tête en France avec 23,34% des voix, 22,42% pour la seconde liste, LREM, menée par Nathalie Loiseau, et enfin 13,48% pour Europe Écologie Les Verts, avec une participation de 50,1%, ce qui représente la moitié de l'électorat, donc pas grand-chose. Et pourtant, c'est le meilleur taux de participation à ces élections depuis 1994, ce qui en dit long sur le sentiment d'éloignement que ressent la plupart des gens par rapport à la gouvernance européenne. Enfin, 7 juillet, si je vous donne un R, je vous donne un A, je vous donne un P, je vous donne un I, je vous donne un M, je vous donne un O, un E. Ah, bah merci Victor. Allez, un point pour Victor, c'était long, pourtant c'était quand même évident.
Mais on a perdu, c'est pour ça.
Cet été, les Américaines ont une nouvelle fois remporté la Coupe du Monde de football féminine qui s'est tenue en France. Alors, trois choses sont absolument notables par rapport à cette Coupe du Monde. Déjà, le traitement médiatique qui a été fait de cet événement, il a été diffusé par les grands médias nationaux alors que le sport féminin est bien trop souvent laissé dans l'ombre. Deuxième élément, les joueuses ont fait clairement taire les médisants qui prétendent que le football féminin, c'est de moins haut niveau et moins bien intéressant que le football masculin. Enfin, les championnes du monde ont fait parler d'elles en refusant de rencontrer le président américain Donald Trump et de souligner que cet événement et sa médiatisation est un gros coup d'accélérateur pour l'égalité des sexes et des salaires. Alors, 16 juillet, on est en plein cœur de l'été. Si je vous dis Le champagne me donne mal à la tête et je déteste le caviar.
François de Rugy.
Merci. Et je suis intolérant au homard. Vous pensez à qui ? Donc à François de Rugy. Une affaire somme toute lambda. Il n'est ni le premier ni le dernier à se servir allègrement des faveurs accordées par sa fonction. Mais une affaire de trop en plein mouvement des Gilets jaunes pour un homme qui avait quand même axé sa carrière politique sur la sobriété et la rigueur. Alors, 13 septembre, je vous donne un petit indice.
Bien, interview moralité, est-ce que vous avez déjà piqué dans le porte-monnaie de votre maman quand vous étiez petit ?
Dans le porte-monnaie de ma maman, oh, j'ai sûrement dû prendre de quoi aller acheter un carambar, oui.
D'accord.
2000 balles, quoi.
Eh oui, c'est plusieurs milliers d'euros que tu as volés dans la poche du contribuable. Qui es-tu ?
Patrick Balkany.
Merci, ouais, Victor. Allez, ouais, un peu d'enthousiasme, là. Patrick, wow, Balkany, effectivement. Poursuivi depuis, pour de nombreuses affaires depuis les années 80, les époux Balkany ont enfin été condamnés le 13 septembre 2019 pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Donc 4 ans de prison ferme pour monsieur qui a été incarcéré immédiatement. Le couple a d'ailleurs annoncé ne pas se représenter aux prochaines municipales, dénonçant un complot judiciaire pour l'en empêcher, après 36 années de plus ou moins douteux services auprès des Levalloisiens. Et petit indice pour le 26 septembre, là j'attends des gens très très chauds.
La pomme est un fruit.
Ah, la mort de Jacques Chirac.
Les pommes. Merci Nicolas. Alors... Effectivement, le 26 septembre est décédé l'ancien président Chirac, grand amateur de pommes, pourfendeur du bruit et des odeurs. Pourtant, c'est une toute autre crémation qui a eu lieu ce jour-là. C'est celle de l'usine de Lubrizol à Rouen, dont la gestion a été un fiasco absolument abracadabrantesque. Pourtant, si l'incident a fait parler de lui parce qu'on peut difficilement faire taire un nuage de fumée noire de plusieurs centaines de mètres, il n'est ni le premier ni le plus grave de cette année. En juillet, un autre site Céveso s'est embrasé pendant plusieurs jours dans l'indifférence la plus totale. Il s'agit de la station d'épuration d'Achères dans les Yvelines, la plus grande d'Europe, qui a déversé ses eaux usées durant tout le temps qu'a duré l'incendie. Plus de 7,5 tonnes de poissons ont été retrouvés morts et on considère que les eaux du fleuve ont été grandement polluées pour plusieurs années. À quand donc une gestion transparente et efficace de ces crises et une condamnation des responsables ?
Est-ce que je peux quand même un peu imiter Jacques Chirac, si vous...
Vas-y, fais-nous. Tu pourras peut-être gagner un point bonus, Nicolas.
Je serai le président de tous les Français.
C'est bien, tu as gagné un point bonus.
C'est la régie qui se met à parler.
Très bien. Alors, pour la dernière date, cette date est éliminatoire. La dernière personne qui ne criera pas dans son micro... Enfin, non, la dernière personne qui criera dans son micro aura définitivement perdu ce jeu. Je vous donne le 5 décembre.
C'est la quoi grève. Ce blanc ?
La grève.
Ah, la grève !
C'est la grève.
Ça doit être la grève.
Ok, bon, je vois que cette grève a suscité beaucoup d'enthousiasme parmi les membres du JRA de Transistor. Pourtant, c'est une date décisive. Journée mémorable s'il en est d'ailleurs, puisque Transistor a consacré son dernier journal radiophonique amplifié à cette grève. Plus d'un million de personnes dans les rues pour protester contre cette réforme des retraites. Et on compte bien que cette mobilisation soit aussi à l'ordre du jour du quiz politique de fin d'année 2020, avec une question spéciale sur la date de retrait de la réforme, qui vaudra 5 points. Alors, pour finir, petite dernière question bonus. Qui a démissionné le 16 décembre ?
De le voir !
Voilà. Vous avez donc... Gagnez tous ce point bonus. Merci à toutes. Et c'est Nicolas qui remporte ce quiz.
Bravo Nicolas.
Grâce à son imitation de Jacques Chirac.
Eh oui.
Imitation mémorable, on pourra la mettre dans des jingles de grands directs Transistor pour les années à venir. C'est super. Bah, merci Adèle pour ce grand retour sur cette année politique 2019. Et on poursuit sans plus tarder avec un peu de sport, parce que l'année 2020 s'annonce sportive.
Ça doit être entraînant.
Oui, mais là, ça pique.
Respectez ! Pas peur de fraude ! Pas peur de fraude !
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud !
Et on commence tout d'abord avec du biathlon pour changer, parce que c'est chez nous que ça se passe. Troisième étape de la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand cette semaine, avec dès aujourd'hui la troisième place de Quentin Fillon-Maillet sur le sprint, pas très loin derrière l'Allemand Bénédicte Doll. Demain, le sprint féminin aura lieu à 14h30 et on compte notamment sur Julia Simon et Justine Brezaz qui avaient connu sa première victoire en carrière ici même il y a 2 ans.
Alors après la Savoie, on passe à Lyon ?
Oui, avec ces terribles nouvelles pour tous les supporters de l'Olympique lyonnais que vous n'êtes pas, j'espère. Après les graves blessures de Jeffrey Adélaïde et du capitaine Memphis Depay qui leur feront manquer toute la suite de la saison, qui s'annonce plus que morose pour un club déjà en proie à plusieurs doutes. Donc si vous cherchez à sortir pour du sport et voir Lyon gagner, je vous conseille plutôt d'aller assister au match de l'équipe féminine de l'OL ou encore au match de basket de l'ASVEL à Villeurbanne, puisque les joueuses sont deuxièmes du championnat à égalité de points avec Montpellier. Et pour ceux qui ont peur de s'ennuyer pendant ces vacances, je vous rappelle que le mercato d'hiver de football va commencer et la question se pose de savoir si le record d'1 milliard d'euros investi l'an dernier va être battu. Je vous laisse convertir ça en pension de retraite, en emploi d'infirmier et d'infirmière qui pourrait être créé, ou encore en nombre d'emplois de Delevoye, lequel aurait finalement peut-être juste oublié de déclarer qu'il s'entraînait pour le marathon de Paris en se rendant à chacun de ses 13 emplois en courant.
Et si jamais on a peur de pas savoir quoi faire pendant les vacances de Noël, t'as un sport à nous proposer ?
Alors oui, évidemment, et c'est le sport de la semaine, c'est le baltation. Alors qu'est-ce que le baltation ? C'est très simple, c'est un sport aquatique individuel qui se joue avec un harpon et qui allie vitesse et précision. Chaque nageur-tireur doit en effet plonger son harpon en main et en même temps qu'il plonge, abattre une cible avec son harpon. La cible est lancée par un arbitre officiel accrédité par la Fédération Internationale de Baltation et la cible correspond au standard habituel que je me permets de vous rappeler si vous l'avez oublié, à savoir 20 cm de diamètre pour 4 d'épaisseur en caoutchouc recyclé. On compte à la fin d'une manche qui comprend 4 tirs le nombre de cibles abattues, sachant évidemment que chaque supporter touché entraîne une radiation immédiate de la compétition ainsi qu'une inscription gratuite à la Fédération Française de Chasse. Et pour ceux qui voudraient s'entraîner sur les berges du Rhône, cette règle s'applique d'autant plus si vous atteignez une personne en vélo.
Super, bah ce sera dans les bonnes résolutions 2020, alors on va tous se mettre à ce sport. Et comme c'est le dernier JRA de l'année 2019, Arthur nous a proposé son dernier sur le chemin de l'école.
Journal radiophonique amplifié, sur le chemin de l'école, avec Arthur.
Bonsoir, chers auditeurs. En raison du zbeul du mois de décembre, la chronique sur le chemin de l'école est rebaptisée sur le chemin de la grève. Je pense que tout le monde est déjà au courant de ce qui se passe en ce moment. L'heure est grave. Notre société est en grève d'apostrophe. La Société britannique pour la protection de l'apostrophe a été dissoute cette semaine par son fondateur John Richards, journaliste de 96 ans, toujours en activité, qui a annoncé qu'il était temps de prendre sa retraite. Ah, on vient de me signaler dans le studio que M. Martinez de la CGT a fait un malaise lorsqu'il a appris la nouvelle. Ne ricanez pas, chers auditeurs, les défenseurs britanniques de l'apostrophe ont baissé les bras. L'apostrophe. Ce signe de ponctuation, trop souvent maltraité, a perdu ses partisans. Des professeurs à la retraite, en chevaliers et missionnaires, tombés au combat dans leur dernière croisade pour la défense de la belle langue. Des stylos rouges bien aiguisés comme fer de lance de la syntaxe académique. L'usage de l'apostrophe, en anglais, marque la possession. Mais elle peut aussi représenter une lettre manquante lors de la contraction d'un mot. John Richards dresse un constat pessimiste sans concession.
De moins en moins d'organisations et de personnes se soucient désormais de l'utilisation correcte de l'apostrophe en anglais. Avec nos nombreux soutiens partout dans le monde, nous avons fait de notre mieux, mais la paresse et l'ignorance des temps modernes ont gagné.
Les Anglais ne savent plus bien écrire, ils mettent des apostrophes à tout bout de champ, souvent à mauvais escient, comme le révélateur d'une société capitaliste aux citoyens égoïstes qui sacralisent la propriété individuelle. L'enfant roi a gagné, il veut tout posséder. L'apostrophe possessive est devenue sa signature. La guerre civile à venir n'est ni d'ordre politique, culturel, social ou ethnique. Non, la prochaine révolte sera d'ordre grammatical. Tout a commencé en 2013 lorsque des villes du sud-ouest de l'Angleterre ont décidé d'ôter les apostrophes des panneaux indicateurs des rues. Ce bannissement de l'apostrophe a fait l'effet d'une bombe au pays d'Elisabeth II. Des condamnations pour outrage grammatical ont fusé des quatre coins du pays. Et en France, aujourd'hui encore, les gens descendent dans la rue pour soutenir le maintien de l'apostrophe. Tout le monde a le droit d'apostropher le pouvoir. Ne pas manifester son opposition au recul de ce droit, c'est reconnaître que la paresse et l'ignorance des temps modernes ont triomphé. Oh rage ! Oh désespoir ! Oh apostrophe ! En grec, l'apostrophe signifie l'action de se détourner du droit chemin, des modèles dominants, pour mieux se retourner vers des sentiers alternatifs. Chers auditeurs, descendez dans la rue, manifestez pour l'apostrophe, défendez le droit au pas de côté. Oui, toi, l'auditeur au col roulé dans ton fauteuil poussiéreux. Toi, le boomer. Je t'apostrophe. Qu'importe le discours, qu'importe le spectacle, qu'il soit bon ou mauvais, tu applaudis comme un mouton. Invariablement, tu suis toujours le groupe. Jamais tu ne vas élever la voix, jamais tu ne vas prendre une décision courageuse. Tu fuis tes responsabilités. Tu t'écrases. Si tu ne veux pas descendre dans la rue pour le droit des personnes discriminées, si tu ne veux pas descendre dans la rue pour le futur irrespirable de tes enfants, fais-le au moins pour l'apostrophe. La fin de l'apostrophe est la marque d'une crise de sens, du sens des mots. Les mots ont un sens. Pour qu'il y ait un débat démocratique, il faut que soient réunies les conditions de possibilité du débat, à commencer par la première d'entre elles, le respect minimal du sens commun des mots. Que peut-on répliquer à quelqu'un qui démolit tout en jurant faire vivre l'esprit du Conseil national de la Résistance ? Il n'y a plus matière à discussion avec quelqu'un qui affirme augmenter le nombre d'élèves par classe pour viser l'excellence scolaire. À partir du moment où les mots sont démolis, que reste-t-il dans la phrase pour s'exprimer ? Il ne reste plus que l'apostrophe et les points pour répliquer. L'apostrophe pour élever la voix et les points pour se défendre. J'ai décidé de prendre mes responsabilités, de passer du mode passif au mode actif. Je coupe le micro et je descends dans la rue. Sur le chemin de l'école, la chronique éducation de Transistor que j'anime depuis l'an dernier rejoint dès aujourd'hui le mouvement de grève générale et reconductible par solidarité avec toutes les personnes méprisées dans ce pays. Et je vous appelle à en faire de même. Vous verrez, chers auditeurs, que vous paierez plus cher la mort de l'apostrophe que la perte d'argent d'une journée de grève. Car la réforme des retraites n'est que le cheval de Troie d'une prochaine réforme bien plus large, plus coûteuse, plus dangereuse que le gouvernement prépare en secret pour la fin du mandat. Aucun média n'en parle. Et pourtant, cette future réforme qui se trame dans les cabinets ministériels impactera durablement la vie de tous nos concitoyens. Ce projet destructeur, c'est...
En raison d'un appel à la grève émanant de la principale organisation syndicale de Transistor, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. Et tout de suite, 3h26 de musique techno-aliénante. Merci.
Vous êtes à l'écoute du journal radiophonique amplifié sur Transistor, radio conçue comme son propre fondement, jusqu'à 21h.
Et c'était un sur le chemin de l'école un peu particulier pour clore cette année 2019 et un peu sombre. Alors du coup, on a besoin d'un peu de science et un peu de cynisme de Phileas qui n'a pas pu venir du fait de la grève mais qui nous a envoyé une super chronique pour nous parler de la COP25. C'est Victor qui va nous la lire.
Air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
En ces deux semaines d'avance s'est déroulée la COP25 à Madrid et j'ai l'honneur de vous annoncer que, comme la précédente, elle n'a abouti à trois fois rien alors que deux jours de prolongation ont été nécessaires. Rappelons qu'en ce moment, Terre est une planète où il fait bon vivre. La journée la plus chaude d'Australie jamais enregistrée était mardi 17 décembre avec 40,9 degrés Celsius de moyenne. Les forêts de koalas brûlent. En parallèle, l'Amazonie brûle aussi quand ce n'est pas l'État brésilien qui s'en charge. Et en France, ce sont les étudiants quand ce n'est pas la forêt des Landes. Des espèces disparaissent chaque jour. Celles qui sont découvertes sont déjà en danger d'extinction. Les Japonais ont rouvert la chasse aux baleines. L'eau est une propriété privée au Chili qui est plus distribuée aux avocatiers qu'aux enfants. Mon plan d'étude n'est pas validé et Patrick Balkany est hospitalisé.
Wow. Je suis désolée pour le plan d'étude de Phileas et pour son cynisme extrême, mais ça n'a rien à voir avec la COP25, non ?
Certes, mais quand même. Concernant la COP25, j'aurais pu vous dire que Greta Thunberg a tweeté que devant l'effondrement de ce sommet, la science a été ignorée. J'aurais pu vous dire que Le Monde a titré une conférence sur le climat oubliée. J'aurais pu vous dire que le budget de 90 millions d'euros est lui aussi parti en fumée. J'aurais pu vous dire que l'urgence climatique est ignorée par les États et que les personnes mobilisées portent plainte envers eux pour une action climatique. J'aurais pu enfin vous rappeler l'urgence de la situation et ressasser qu'il faut limiter la hausse des températures et des émissions de CO2, mais tout ça, vous l'avez déjà entendu.
Donc, qu'est-ce que t'as prévu de nous dire ? Enfin, qu'est-ce que Phileas a prévu de nous dire ?
Alors, les fêtes approchent, vous allez revoir votre famille, y compris Bertrand, cet oncle un peu raciste mais que vous aimez bien quand même, et Monique, cette tante climato-sceptique que vous aimez bien aussi. Pour égayer ce repas autour d'une dinde, quoi de mieux qu'un bon débat sur le port du voile, un bon débat sur la politique de Macron, de son gouvernement, de la réforme des retraites pour fêter ses retrouvailles. Et en dessert, avec la bûche, une discussion sur le changement climatique. Mais que dire face à votre tante ?
C'est là que tu vas nous donner des conseils.
Et oui, car quoi de mieux que de moucher Monique et ses arguments dignes d'un tweet de Donald Trump, elle qui a lu l'imposture climatique ou la fausse écologie du sophiste Claude Allègre et qui consulte et alimente le site chemtrailsfrance.com tous les jours. Si Monique vous dit qu'un glaçon dans un verre ne fait pas monter le niveau de l'eau après avoir fondu, rappelez à Monique que toutes les glaces ne sont pas déjà dans l'océan mais aussi sur les montagnes, voire sur des continents entiers comme en Antarctique. Apprenez-lui également que l'eau est soumise à une grandeur physique appelée coefficient de dilatation thermique qui explique que s'il fait plus chaud, l'eau prend plus de place. C'est certes négligeable pour un verre, mais pas pour un océan. Si Bertrand la soutient en argumentant que la vague de froid lui a donné la grippe et que si la météo se trompe sur 5 jours, elle se trompera sur 20 ans, prévenez Bertrand qu'une tendance au réchauffement n'exclut aucune vague de froid éventuelle et rappelez que vous pouvez affirmer qu'il fera plus chaud en juillet qu'en février à cause de la position du soleil et que là, par conséquent, la quantité de CO2 augmentant induira de fait une hausse des températures.
Super, je vais pouvoir affronter Monique et Bertrand au réveillon. Et sinon, le mot de la fin ?
Essayons de raisonner nos Monique et nos Bertrand respectifs. Et plutôt que de laisser les États faire des sommets passifs, agissons à notre échelle pour inciter les plus grands.
Ça se réchauffe dans l'aisselle, hein.
On est resté dans le côté. C'est un travail au corps. Moi. Agissons à notre échelle pour inciter les plus grands à agir à grande échelle. L'industriel est certes plus responsable que chacun d'entre nous, mais il n'agira pas si on ne lui force pas la main. Visons une stagnation des températures plutôt que de limiter la casse, car même tout objectif fixé risque d'être dépassé. Ainsi, peut-être qu'en visant cela, la hausse n'en sera que diminuée. Enfin, agissons vite, car ce n'est pas demain la veille qu'on aura un quelconque résultat. À bon entendeur, salut et merci Phileas.
Merci Phileas et merci Victor.
Le journal radiophonique amplifié sur Transistor.
Bon, et puis on termine bien l'année 2019 avec un peu de musique, Nathan.
Merci Mathilde, musicienne d'avant-fête, jingle.
Où je vais dire des trucs simples.
Et pour commencer, présentons Artjacking. Artjacking est un collectif lyonnais axé sur, je cite, toutes les cultures hip-hop 2.0. Je ne vous ne pas encore avoir compris le sens. Tout ce que je sais, c'est qu'ils organisent de bien belles soirées sur Lyon, comme celle avec Yard où Larry est venu, ou encore le concert de Lala Ace dont on a déjà parlé. Et ce samedi 28 décembre, pas ce samedi, mais le samedi 28 décembre, ils organisent une dernière soirée pour 2019 avec pour invité, tout d'abord, Captain Roshi. Captain Roshi est un rappeur qui s'est fait connaître avec la série de freestyle SSD et des collabs avec DJ Wigdim, qui, avant de sortir sa mixtape, attaque le 15 novembre de cette année, où l'on peut entendre un rap technique, souvent agressif sur des instrumentales le plus souvent trap, d'où sort une couleur.